Pour aujourd'hui, c'est donc la dernière fois, et je profiterai de cette dernière conférence, ce dernier entretien, pour aborder les deux péchés capitaux que je n'ai pas abordés jusqu'à présent. Donc c'est assez facile, hein. Il y aura la colère et la paresse. Ça ne concerne aucun de vous. Voilà, je vous propose de chanter aux croix dressées sur le monde, le premier couplet, ok, je pense suffisamment connu, même si vous n'avez pas de feuilles. Aux croix dressées sur le monde, aux croix de Jésus-Christ, aux croix dressées sur le monde, aux croix de Jésus-Christ, fleuve dont l'eau féconde, du cœur ouvert a jailli. Par toi la vie surabonde, ô croix de Jésus-Christ. Voilà, la semaine prochaine, en ce vendredi saint, nous pourrons contempler Jésus en croix et nous rappeler que sur la croix, il a sauvé tous les hommes. Il nous a sauvés chacun, chacune d'entre nous. Et qu'en le contemplant sur la croix, nous recevons la vie. Le péché est vraiment quelque chose qui rend pénible parfois notre vie et aussi la vie des autres. Et c'est la raison pour laquelle la tradition de l'Église, la tradition spirituelle de l'Église a voulu enseigner le peuple chrétien par rapport à ce mystère du péché. Voilà, comment se fait-il que nous vivions ainsi? Et en choisissant cela et en déterminant ce qu'on a appelé les péchés capitaux, les sept péchés capitaux, par une tradition qui remonte au premier siècle de l'Église, eh bien, l'Église a voulu aider les croyants à progresser sur le chemin de la vie parfaite. Je rappelle, parce que j'espère l'avoir déjà dit, que le péché ne consiste pas à faire le mal parce que c'est le mal et parce qu'on veut faire mal. Une telle détermination, elle n'est possible que pour parler du démon. Satan fait le mal parce que c'est le mal et qu'il souhaite faire du mal. Pour nous, il n'en est pas ainsi. Bien sûr, il se peut que par notre péché, nous fassions du mal. C'est vrai. Mais toujours est présent à notre esprit que si nous le faisons, c'est parce que nous avons des bonnes raisons de le faire. Autrement dit, on essaie toujours de justifier le péché qu'on peut commettre en disant d'une certaine manière que c'est normal qu'on le commette, c'était nécessaire. Alors, je vous donne évidemment un exemple concernant ce que nous allons aborder aujourd'hui. Je vous ai dit qu'on allait parler de la colère. Alors, évidemment, c'est un péché capital, la colère. Hein, c'est la perte de la maîtrise de soi, l'utilisation de la force physique ou parfois psychologique qu'on peut avoir pour montrer qu'on est plus fort que l'autre. Quand je crie, je domine l'autre. Quand je dis dans la colère des paroles qui dépassent ma pensée, je domine l'autre. Au point d'ailleurs que après souvent je suis obligé de dire « Pardonnez-moi, mes propos ont dépassé ma pensée. » Mais sur le moment même, on les dit ces paroles. Et alors, de ce point de vue-là, j'aime beaucoup aborder cette question. Je dis aux gens, est-ce que Jésus s'est mis en colère dans l'Évangile? Ah ben oui, bien sûr, avec les vendeurs chassés qu'il a chassés du temple, avec les vendeurs chassés. Alors, moi je veux bien qu'on réfléchisse à ce passage de l'Évangile. Hein. Alors vous savez peut-être que Saint Jean le met au tout début de son Évangile, tandis que les trois synoptiques Matthieu, Marc et Luc le mettent à la fin, juste avant sa passion. Alors, on peut étudier ce passage, hein, si vous voulez. Je n'ai pas pris le texte, mais ce n'est pas grave, on le connaît presque par cœur. Hein. D'abord, il faut quelques explications, parce que les vendeurs dont il est question ne sont pas dans le temple, à proprement parler. Le temple, c'est très précis, c'est un bâtiment devant lequel se trouve un autel bâti en pierre, sur lequel on offre tous les jours des sacrifices d'animaux. Et puis, derrière cela, il y a une première salle qu'on appelle le Saint, et une deuxième salle qu'on appelle le Saint des Saints, et qui est d'ailleurs fermée par un rideau, un immense rideau, ce qui fait que le Saint des Saints n'est pas accessible, n'est pas visible. C'est là que, dans la tradition du Temple de Salomon, on conservait l'Arche d'Alliance. Voilà. Mais donc, en fait, dans la réalité, aujourd'hui, enfin, du temps du Christ, mais déjà depuis longtemps, il n'y a plus rien dans le Saint des Saints. Il est vide. Il n'y a plus l'Arche d'Alliance. Mais en tout cas, il demeure fermé. Personne ne peut voir le Saint des Saints. Et le seul qui peut entrer dans le Saint des Saints, une fois par an, c'est le grand prêtre du Temple. Le grand prêtre qui a le droit ce jour-là de prononcer le nom de Dieu. Ce nom de Dieu que personne n'a le droit de prononcer, le tétragramme sacré, quatre consonnes qui sont prononçables avec des voyelles qu'on rajoute. Voilà, le tétragramme n'est jamais prononcé, jamais, jamais. On met à la place le mot Adonai, qui en grec veut dire Seigneur. Mais le jour du Yom Kippour, l'unique jour de l'année, le jour du grand pardon, le grand prêtre entre dans le Saint des Saints et là, il prononce le nom de Dieu. Alors, pour vous faire comprendre les choses et pour vous faire rire peut-être un peu, avant de cela, on l'attache avec une corde autour de des reins, parce que si jamais il a un malaise dans le Saint des Saints, personne ne peut aller le chercher. Et donc, il faudrait le ramener à ce moment-là comme ça. Nos fameux vendeurs du temple, ils ne sont ni dans le Saint des Saints, ni dans le Saint, ni devant l'autel des sacrifices, ni devant le parvis des hommes, ni dans le parvis des femmes. Alors, où sont-ils ? En fait, ils sont sur le parvis des païens, un immense parvis qui a été agrandi par Hérode. Et alors, ce parvis, normalement, est là pour accueillir les païens. Où devraient être les vendeurs ? Mais tout est prévu pour eux. Il y a un marché couvert, des halles, une basilique qui est sur le côté gauche du temple, un immense bâtiment où là sont censés se passer les achats des animaux, le changement de monnaie. Donc tout est prévu. Sauf qu'au fur et à mesure, voyant que c'était le premier jour du printemps et qu'il commence à faire beau, ils sortent. C'est bien pour les animaux. Et puis ils vont un peu plus loin. Et puis ils vont un peu plus loin. Et puis ils sont de plus en plus à se retrouver dehors. Et donc, c'est ça le problème. C'est qu'ils sont sur le parvis des païens. Et donc, que va faire Jésus ? Il va les chasser. Il va faire une corde, il va faire un fouet avec des cordes, et il va les chasser. Alors, croyez-vous que Jésus ait pété les plombs ? Ben non, hein. Il sait très bien ce qu'il fait, Jésus, hein. Il est en train de réaliser la prophétie de Sophonie qui indique qu'un jour Dieu viendra dans son temple, prendra possession de son temple et il ne s'y fera plus rien de mauvais. Et donc c'est la réalisation d'une prophétie. C'est tellement vrai que les Juifs qui sont là, qui sont dans le temple, qui sont dans cette partie, ne disent pas, mais il est complètement fou celui-là. Vite, la garde, la garde. On n'appelle pas la garde, hein. Il y a des gardes qui sont postés et qui sont là pour assurer la sécurité du temple. Et donc on n'appelle pas la garde, comme nous on appelle les pompiers ou la police. La seule chose qu'il dit, c'est « Quel signe peux-tu nous donner pour accomplir ce que tu fais là ?» Ça veut dire que donc ils ont compris que Jésus faisait quelque chose qui n'était pas un coup de folie, mais qui était un signe qu'il donnait, quelque chose qui manifestait une réalité qui touchait le mystère du temple. Et c'est là que Jésus leur répond « Détruisez ce temple et en trois jours je le relèverai. » Le temple dont il parlait, c'était son corps. Très bien. Et donc je suis désolé de vous dire, vous qui référiez tout le temps à ça, Jésus ne s'est pas mis en colère. Je suis désolé. Ah oui, je sens que ça crée un choc là. Parce que vous comprenez, on ne peut pas penser que d'un côté la colère c'est quelque chose de négatif et penser que Jésus l'a fait. Parce que sinon, on appelle la colère, vous savez, une sainte colère. La sainte colère. J'aime bien cette expression. C'est comme les péchés mignons. Oh, le péché mignon. Ben, les péchés ne sont pas mignons et la colère n'est pas sainte. Qu'est-ce que c'est la colère? La colère, elle vient du fait qu'une situation m'échappe. C'est-à-dire que je perds le contrôle et que par conséquent, je suis déstabilisé. Et comme je suis déstabilisé, je vais montrer ma puissance pour reprendre la main. Voilà, pour dire, voilà, c'est moi le patron. Et en fait, en faisant cela, ben non seulement ça signifie que je n'accepte pas de perdre le pouvoir sur quelque chose, mais surtout, c'est que j'utilise la force pour obtenir gain de cause. Et ça ne peut pas être une attitude évangélique. Ce n'est pas par la force qu'on obtient quelque chose. Jésus, sur la croix, est démuni. Il ne peut rien faire. Il est même réduit à la plus grande vulnérabilité qu'il soit. Et pourtant, c'est sur la croix qu'il nous sauve. Donc vous voyez, la colère est vraiment un mauvais usage de la force que je peux avoir pour rétablir mon droit et pour répondre au fait que je ne suis pas écouté, je ne suis pas obéi, je ne suis pas, voilà, tout ce que j'attendrais des autres et qu'ils ne font pas. Alors vous allez me dire, oui, mais Père, quand même, il y a certains moments, il faut bien exister quand même quand on a quelque chose à dire et qu'on n'est pas écouté. Sûrement, probablement. Est-ce le meilleur moyen? Je ne sais pas. Ou plus exactement, je sais. Parce que la colère, de toute façon, nous attire toujours des ennuis. Toujours. Vous savez, quand vous voulez vous débarrasser de quelqu'un qui vous a peut-être crié dessus, vous dites « cette personne est colérique ». Et une fois que vous avez prononcé ce mot « colérique », ça y est, la personne est discréditée. En fait, c'est ça le comble. C'est que la personne qui a perdu, en quelque sorte, la maîtrise de la situation et qui veut la récupérer par la colère, perd encore plus le contrôle de la situation. Pourquoi ? Parce que la personne est discréditée. On considère qu'elle n'est pas capable d'être maîtresse de sa force, de sa puissance, et donc la personne y perd. Souvent, il m'arrive de recevoir en confession des personnes qui parlent de colère, évidemment. Parfois, des parents qui me disent « Je me suis mis en colère, j'ai crié contre mes enfants. » « Ah bon ? Ils ont quel âge ? 2 ans. » Je n'ai jamais eu d'enfant. Mais je ne crois pas que ce soit la meilleure manière de faire que de crier sur un enfant de 2 ans. Vous imaginez le contraste que ça peut représenter pour lui entre l'idée qu'il se fait de son papa, de sa maman, et cette espèce d'explosion de violence qui fait qu'il est évidemment tétanisé. Et donc il y a là quelque chose qui n'est pas ajusté. Il y a quelque chose qui n'est pas ajusté. On l'a dit aussi de plus en plus, Il n'est pas ajusté de frapper un enfant. Alors je sais bien, vous allez me dire, père, on voit bien que vous ne vous occupez pas d'enfants, c'est compliqué. Oui, mais je reste convaincu que c'est la force des lâches que d'utiliser sa force contre un enfant. Il faut trouver d'autres moyens. Il faut trouver d'autres moyens. Il y a une conscience qu'on doit avoir que la colère fait tellement de mal. Elle blesse tellement. Elle peut être tellement traumatisante. Elle peut avoir des conséquences tellement mauvaises. Et donc c'est vraiment un péché contre lequel il faut lutter. Comment lutte-t-on contre la colère? Mais déjà, en essayant de comprendre, enfin si on a le temps de le faire évidemment, hein, pourquoi on se met en colère? Quelle est la raison profonde? Si c'est parce que l'autre ne m'a pas écouté, ou parce que je veux faire entendre ma voix mais personne ne m'écoute, ou alors je veux avoir raison, c'est moi qui ai raison, donc puisque j'ai raison, tout le monde doit être d'accord avec moi. Si on commence à élaborer les vraies raisons qui me conduisent à me mettre en colère, finalement, on se rend compte que ça tient pas longtemps, hein. C'est pas moi qui ai raison. Qu'est-ce que ça veut dire, j'ai raison? J'ai toujours raison, ça veut dire quoi? C'est pas vrai. Faut que j'accepte que parfois, je n'ai pas raison et que l'autre puisse avoir raison. Et donc, la colère, comme elle est un excès, il faut le corriger par une prise de recul. Voilà, il faut prendre un peu de recul, il faut souffler un bon coup et puis prendre un peu de recul. Parfois, il vaut mieux ne rien dire et en rester là, se disant que de toute façon, tout ce qui va venir après risque de dégénérer. L'autre chose qui permet de lutter contre la colère comme remède, c'est de se dire, mais n'y a-t-il pas un autre moyen pour moi, pour obtenir mon objectif? Est-ce qu'il n'y a pas un autre moyen de ramener à la raison telle personne? L'autre jour, j'ai assisté à quelque chose qui m'a beaucoup marqué. Je vais célébrer la messe plusieurs fois par semaine chez les frères missionnaires de la Charité. C'est l'équivalent des sœurs de Mère Teresa, sauf que ce sont des hommes. Voilà, ça change beaucoup de choses quand même, hein. Ce sont des hommes. Et l'autre jour, un des frères était là, donc le matin il y a un accueil pour un petit déjeuner, etc., pour des douches, et un des frères empêche un des gars qui se présentait de rentrer. Et il y avait une raison valable, c'est que en fait, la fois précédente, il était venu complètement sous, et ça c'est pas possible. Enfin, je veux dire, ils ne peuvent pas accueillir des gens qui sont complètement sous. Et donc, il lui avait dit, écoute, pendant 15 jours, tu ne viens pas. Et donc, il était venu quand même. Et donc, le frère lui dit, non. Et lui s'est mis à hurler et a commencé à frapper. Et on a dû appeler un autre frère, enfin, j'étais là moi aussi, on a dû appeler un autre frère, plus grand, et qui lui parlait tout doucement. Plus il était énervé, et plus il lui parlait doucement. Eh bien, en fait, au bout d'un moment, c'est quand même assez extraordinaire, au bout d'un moment, le gars s'est calmé, et le frère lui dit, écoute, si on t'a dit de ne pas venir, c'est qu'il y avait une raison, il faut que tu acceptes. Eh bien, ce qui m'a marqué dans ce que je vous raconte, c'est que la tentation était forte devant cet homme qui était profondément violent et hurlant. La tentation est très forte d'arriver, de lui foutre un poing dans la figure et puis de le calmer. Eh bien non. Le frère, tout à fait conscient de ce qui se passait, qui avait été appelé, a dit, il lui parlait doucement, s'il te plaît, calme-toi. Tu sais très bien que ce n'est pas possible. Calme-toi, s'il te plaît. Eh bien, vous savez, j'ai été admiratif quand même, hein, de voir comment ce frère était capable de répondre à une telle violence par une telle douceur. Et ça, c'est beau. C'est beau parce qu'on se dit finalement, on imagine assez facilement que la violence doit répondre à la violence, que la dureté doit répondre à la dureté. que la colère doit répondre à la colère? Peut-être pas. Enfin, peut-être pas. Sûrement pas. Et donc, il a montré comme cela à cet homme qui, ce qu'elle était le vrai chemin qui s'ouvrait devant lui. Que s'il continuait dans ce sens-là, c'était sans solution. Et donc, lutter contre la colère, c'est aussi donc prendre du recul et ne pas simplement utiliser la force pour essayer de parler à quelqu'un. Lutter contre la colère, c'est aussi, et contre l'emportement que cela peut représenter, c'est accepter aussi d'accueillir les gens comme ils sont. Voilà. Parce que là aussi, pourquoi voulons-nous que les gens soient autres que ce qu'ils sont? Voilà, il faut accepter les gens comme ils sont et commencer à vivre avec eux et travailler avec eux en les recevant comme ils nous sont donnés. Parce que sinon, là aussi, vous voyez bien, on veut transformer les gens, mais ça n'est pas en notre pouvoir. Et ce n'est pas ce qui nous est demandé. Et ce n'est pas comme ça que nous allons y arriver. Et puis la colère, enfin, c'est se dispenser. C'est passer complètement à côté de Dieu. Hein. Quand il y a un problème avec quelqu'un, quand il y a une difficulté, si je commence à me dire que c'est par mes propres forces que je vais régler le problème, ben déjà, peut-être que je me trompe. Parce que ce n'est pas par mes propres forces que je vais le régler. Je vais le régler aussi dans la mesure où je suis capable de confier la personne à Dieu, de confier la situation à Dieu et de prendre justement auprès de Dieu la grâce d'être paisible, d'être apaisé, d'être capable de vivre autrement ce moment de tension, ce moment de difficulté. Voilà, je crois que c'est très important. Moi, le premier, je reconnais que parfois, oui, la colère, c'est la solution de facilité. Hein. Moi, je l'ai utilisé parfois. Et je pense que, voilà, j'ai tort. D'ailleurs, je m'en suis confessé, mais c'est tellement tentant. C'est tellement tentant. Alors que ça correspond si peu à ce que nous sommes appelés à vivre avec les autres. Comme le temps passe, je vais aborder le dernier péché capital que je devais aborder, c'est la paresse. La paresse. Voilà. L'autre mot, vous savez, qui est utilisé pour parler de ce péché capital, c'est le mot d'assédie. Alors, l'expression assédie, elle fait référence plutôt à une expérience spirituelle. On perd le goût de Dieu. On perd le goût de la prière. On perd le goût de faire des choses pour Dieu. Et ça, c'est en particulier l'expérience des moines qui sont dans le désert et qui ont fait cette expérience de passer de cet état de feu, de joie, d'être au service de Dieu. Et puis petit à petit, tout ça s'amenuise et puis on arrive à l'assédie, qui est vraiment un péché parce qu'il y a un consentement. Alors, je vais commencer par dire une chose très importante. Pour ça, je vais raconter une histoire. Je ne pense pas que la personne soit là, mais si elle était là, elle ne m'en voudra pas de l'avoir racontée parce que c'est tout à son avantage. Un jour, une personne vient me voir et me dit « Père, je n'en peux plus, je suis épuisé, je n'arrive pas à faire mon travail, je me lève le matin, je suis déjà fatigué. » Le soir, quand je vais me coucher, je suis complètement crevé. Je dors mal la nuit. Et dans la journée, j'essaie de prier, mais j'ai du mal à prier. Et cette personne me dit, et en plus, je prie la Sainte Vierge en permanence parce que j'ai des idées noires. Alors je lui dis, des idées noires? Mais qu'est-ce que c'est que ça, des idées noires? Vous pensez à la mort? Vous pensez au suicide? Elle me dit, Père, j'ose pas trop vous le dire, mais oui, c'est ça. Alors, je l'écoute attentivement, et au bout d'un moment, j'essaie de la réconforter. Et puis, je lui dis, vous savez, madame, je vais vous dire une chose. Vous priez le chapelet, et vous avez toujours des idées suicidaires. Vous priez le chapelet et vous vous mettez à pleurer. Vous priez le chapelet et vous êtes épuisé. Madame, est-ce que vous me permettez de vous donner un conseil ? Ben oui, mon père. Est-ce que vous accepteriez d'aller voir un médecin ? Alors elle me dit, qu'est-ce que vous voulez dire ? Et je dis, est-ce que vous accepteriez d'aller voir un psychiatre ? Alors là, réaction évidemment, mais pourquoi mon père, je ne suis pas malade ? Alors je dis, madame, je ne dis pas que vous êtes malade, mais je pense que vous faites une dépression nerveuse et que ça ne se soigne pas à coups de chapelet. Et donc je vous propose d'aller voir un psychiatre. Voilà, je prierai pour vous. Elle me répond, père, comme vous êtes un prêtre, je vais vous obéir, sinon je ne l'aurais pas fait. Vous voyez le pouvoir des prêtres. 5 mois plus tard, je vois revenir cette femme. Elle me dit, père, je suis venu vous voir il y a 5 mois. Je dis, oui, sûrement. Je ne me rappelle pas, madame. Elle me dit, j'étais pas très bien et vous m'avez conseillé d'aller voir un psychiatre. Oui, peut-être, madame, oui. Père, je voulais vous remercier parce que vous m'avez sauvé la vie. Parce que j'étais malade et que je ne l'acceptais pas et que je ne voulais pas le voir en face. Et en fait, vous m'avez aidé, avec délicatesse, vous m'avez aidé à le voir en face. Et donc, il a diagnostiqué une dépression, il m'a donné un traitement, et maintenant, père, je vais très 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 bien. Oh, ben madame, merci, tant mieux. Ça sert à ça aussi, les prêtres. C'est-à-dire que, vous comprenez pourquoi je vous ai raconté ça, parce que la cédille, la paresse, parfois, c'est le signe, en fait, d'un truc plus profond, qui n'est pas de l'ordre du péché, mais qui est de l'ordre, malheureusement, de la maladie. On n'y peut rien, c'est comme ça. C'est pas parce qu'on est moins bien que les autres, c'est comme ça. Et donc, le fait de faire ce diagnostic est très important. Donc, une fois qu'on a fait ce diagnostic, qu'on a fait la différence entre ce que pouvait être une dépression, voilà, une dépression, on perd complètement le sens de la vie, on descend, et on va vers la mort, c'est tout. On n'a pas d'autre envie que de mourir. On doit avoir d'autres envies dans la vie. Hein. Et donc, une fois qu'on a fait ce diagnostic, on peut revenir à la paresse. Alors la paresse, vous savez bien comment ça se manifeste. Mais par exemple, je mets mon réveil pour me lever à 7h, il sonne à 7h, je dis « Oh, allez, 5 minutes de plus ». Et je me réveille après, il est 10h. Voilà. Je dis ça parce que ça m'est arrivé ce matin. J'avais mis mon réveil à 7h, et en fait, dans la réalité, je me suis rendormi. Et voilà, et il était 10h moins le quart quand je me suis réveillé. Vous savez, dans ces cas-là, je m'inquiète pas trop, je me dis, c'est comme ça. Hein. Mais je dis, je sais pas si c'est de la paresse ou si c'est de la fatigue. En tout cas, j'ai bien dormi. Et donc, en fait, la paresse, c'est vraiment quand il y a une petite voix dans ma tête qui me dit « Mais allez, ne le fais pas, repose-toi, ne fais pas ça, tu le feras après. » Vous savez, on remet tout le temps, hein, les gens qui remettent tout le temps les choses difficiles à faire à plus tard. Mais le problème, c'est que plus tard, elles sont toujours là, les choses à faire. Et que donc, quand on arrive au soir, on se dit « Mince, oh là là !» Moi, il y a une chose qui me sauve chez moi, c'est qu'il y a la dame qui travaille au presbytère qui nous fait 1 heure de ménage par semaine. Et donc, le vendredi midi, je peux vous dire que je m'active. Hein. Tout est propre, hein. Je nettoie tout, pour que quand elle arrive, elle se dise « Oh, comme c'est propre chez le père Soubias !» Le reste du temps, c'est pas toujours le cas. Donc voilà, simplement pour dire que la paresse, vous voyez, c'est cette espèce de volonté de toujours remettre, de ne pas faire les choses dans les temps, de ne pas faire son devoir d'État, de ne pas... Voilà. Et donc, c'est un péché, bien sûr. Pourquoi c'est un péché ? Ben, parce que ça touche ma capacité d'engagement. À partir du moment où je me dis « tu vas faire ça », il faut que je me donne la chance de le faire. Sinon, eh bien, je vais laisser traîner. Et puis je vais le faire un peu rapidement, et puis je vais le faire sans me rendre compte que j'ai laissé passer trop de temps. Et donc la paresse, elle peut être d'abord dans ma vie personnelle, en particulier dans le fait d'entretenir les choses dont j'ai la responsabilité, mon appartement, ma chambre, mon lit. Ça peut être aussi ma grand-mère faisait toujours le lit le matin, une fois qu'elle s'était levée, parce qu'elle me disait, si je vais me promener dans la journée et que je meurs, on va me ramener sur mon lit et je ne voudrais pas que les gens le trouvent défait. Et bien j'y pense parfois, je me dis, fais ton lit. Vous savez, ce sont des choses qui nous permettent d'être aussi, actifs, d'être conscients que nous avons des choses à faire. Quand je vois aujourd'hui des pantalons dont les ourlets ne sont pas faits, parce que c'est la grande mode maintenant, je me dis, mais quelle flemme. Ou pire encore, vous savez, ceux qui sont déchirés là partout. Jamais j'aurais mis un truc comme ça quand j'étais jeune. Jamais. Mon Dieu. Enfin, je sais pas, il y a un minimum, quoi. Et donc, simplement, vous voyez, la paresse, elle m'affecte, moi, dans ma capacité de tenir des engagements que je prends. Et donc, c'est important de lutter contre la paresse, déjà, pour moi-même, par rapport à moi-même. La paresse, elle peut s'exprimer par rapport à d'autres. Par exemple, des personnes m'ont proposé de faire telle ou telle chose, et finalement, j'y vais pas. Et puis, je téléphone au dernier moment, « Oh, je suis malade, je suis au fond de mon lit, je ne peux pas venir. » On en fait en plus un gros mensonge. Et donc, la paresse vis-à-vis des autres, c'est dommageable aussi, parce que les autres ont le droit de pouvoir compter sur moi aussi. Ça fait partie des choses importantes dans la vie personnelle et dans la vie avec les autres, dans la vie interpersonnelle. La paresse, elle peut toucher ma vie avec Dieu. Et ça, c'est évidemment quelque chose qui est dommageable. Pourquoi ? Soit je me donne des objectifs complètement inaccessibles. Et dans ce cas-là, c'est pas de la paresse, c'est de la folie d'avoir pris des objectifs trop hauts. Mais si je me connais un peu, je peux me donner des objectifs qui correspondent à ce que je sais être capable de faire. Et donc cette capacité que j'ai de prendre une décision devant Dieu en disant, ben Seigneur, voilà, tous les jours je veux dire mon chapelet, par exemple. Très bien. Alors il peut arriver un jour où je n'ai pas pu le dire pour mille raisons, bien sûr. Mais de manière habituelle, je vais le dire. Je dis au Seigneur, tous les jours, Seigneur, je voudrais lire l'évangile qui est proclamé à la messe. J'ai même l'application. Alors moi, ça me fait rire, ça, parce que le nombre de gens qui ont l'application pour lire l'évangile du jour, c'est impressionnant. Et après, quand vous leur dites, est-ce que vous lisez l'évangile tous les jours? Ah, non. Et vous n'avez pas l'application à ELF? Ah ben si. Ben alors pourquoi vous ne le faites pas? Il y a deux touches à manipuler. Faites-le. Ça prend 2 minutes. N'empêche, ça prend 2 minutes. Voilà. Donc vis-à-vis de Dieu, qu'est-ce qui est en jeu? C'est le maintien de ma vie spirituelle. En fait, lutter contre la paresse, ce qu'on pourrait appeler presque de l'ascédie, ce que vivent les moines, ce que je vous ai dit tout à l'heure, ce qui permet de lutter contre l'ascédie, c'est de se dire, c'est important pour moi de garder une place centrale à Dieu dans ma vie. Et donc, si je ne prie jamais, on ne peut pas dire que je garde une place pour Dieu. Si je ne vais jamais à la messe, on ne peut pas dire que je garde une place pour Dieu. Autrement dit, c'est une certaine loyauté vis-à-vis de Dieu. On ne peut pas se dire en même temps, ah oui, c'est très important pour moi, et en même temps de ne pas mettre dans ma vie quotidienne des éléments qui manifestent que Dieu est le premier servi, ou que Dieu a la première place. Et donc, tout ce qui concerne la relation avec Dieu, mais aussi avec les autres dans le cadre de la charité. Tout cela me fait grandir sur mon chemin de sainteté. En fait, lutter contre la paresse, lutter contre l'assédie, c'est aussi avoir avoir le désir de mettre Dieu à la première place, voilà, dans ma vie. Et je pense que on est tous pareils, hein. On a tous besoin de le manifester par quelque chose de précis. On ne peut pas simplement le dire comme ça et puis dire, après on verra bien. Non, il faut que ça puisse se réaliser concrètement dans ma vie. Et la paresse, c'est quelque chose qui vient évidemment un peu abîmer cette relation profonde avec Dieu, cette capacité de prier, cette capacité de s'investir dans la foi. Voilà, la paresse, elle est quelque chose qui, un péché, tout simplement, voilà, qui m'empêche de vivre vraiment ma vie avec Dieu et avec les autres. Alors, je terminerai en disant cela. Les péchés, concrètement, nous font du mal à nous d'abord. Nous font du mal à nous. Si nous devons lutter contre le péché, c'est parce que Dieu nous y invite. Et pourquoi nous y invite-t-il ? Parce que Dieu ne veut pas que nous nous fassions du mal. Je voudrais simplement vous faire comprendre que c'est pas le mal et le bien. Je choisis le mal ou je choisis le bien. Non. Souvent dans les péchés, c'est que je choisis de manière stupide. Je choisis de me faire du mal au lieu de me faire du bien. Car si je prends l'exemple de la prière me fait du bien. C'est bon pour moi. C'est quelque chose de fabuleux que je puisse parler au Créateur de l'univers entier, que en le convoquant, il se rende présent. C'est quand on y pense, mais c'est prodigieux. Donc c'est un merveilleux cadeau que la capacité de prier. Simplement, si je ne prie pas, eh bien c'est à moi que je fais du mal. Je ne fais pas de mal à Dieu, pour une raison simple, c'est que Dieu n'a pas besoin de ma prière. Hein, je ne vous choque pas en disant ça, mais Dieu il n'a pas besoin de ma prière. En revanche, Dieu veut que je puisse me réconforter en priant. Et c'est pour ça que Dieu m'appelle à prier. C'est pour cela que Dieu m'appelle à lire la parole de Dieu. C'est pour cela que Dieu m'appelle à avoir cette vie spirituelle présente. Tout cela est bon pour moi. La colère, je me fais du mal d'abord à moi, puisque je ne suis pas maître de moi-même, et qu'en plus de ça, je montre un visage tout à fait déplaisant de moi-même. Et donc, la colère me blesse d'abord moi. Elle blesse aussi les autres, s'ils en sont les témoins. Voilà, mais il faut toujours se rappeler que péché, ce n'est pas simplement faire mal. C'est se faire du mal aux autres, et éventuellement faire du mal à Dieu. Encore que cette expression, j'ose pas trop l'utiliser parce que Dieu n'est pas vulnérable. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que la lutte contre les 7 péchés capitaux, qui sont capitaux parce qu'ils sont à la tête de toutes sortes d'autres péchés qui viennent ensuite à la queue leu-leu, les péchés capitaux définissent tout ce qui, en fait, me fait du mal, m'abîme et m'empêche d'être heureux. Et la lutte contre les péchés capitaux, c'est tout ce que je peux faire pour ne pas me laisser embringuer, pour ne pas me laisser piéger par ces péchés capitaux. Et la vie spirituelle, c'est vraiment le choix du bien. C'est le choix de ce qui est bon pour moi. C'est cela que Dieu veut pour moi. Et vous savez que plus on prend conscience de cela, et plus on comprend que Dieu est vraiment bon avec nous. Dieu ne nous condamne pas pour nos péchés, il nous relève. Dieu ne nous en veut pas, il nous pardonne. Dieu ne nous enferme pas dans nos péchés, il nous délivre. Et donc l'œuvre de Dieu est toujours une œuvre pour nous faire du bien, pour faire de nous des hommes et des femmes libres. Et c'était tout le sens du carême que de regoûter à cette liberté que Dieu veut pour nous et que nous aurons la joie de professer la nuit de Pâques quand nous dirons le credo en célébrant le Christ ressuscité. Eh bien écoutez, je suis heureux d'avoir passé ce temps avec vous et je vous souhaite une bonne semaine sainte et de belles fêtes pascales.